Ben.
On commence avec ces bruits de tir entendus hier soir à Papara qui ont beaucoup inquiété la population. On parlera aussi de cette convention signée entre la CPS et les forces de l'ordre. Et enfin, du surf pour terminer avec la première compétition QS à Punaoya lancée lundi. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabreau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Lucie, on commence donc avec ces bruits de tir qui ont inquiété une partie de la population de Papara.
Oui, des bruits qui ont effectivement suscité beaucoup d'inquiétudes et des discussions sur les réseaux sociaux. Nos confrères de La Première précisaient ce matin que la police municipale et la gendarmerie s'étaient rendues sur place. Nous avons joint la procureure de la République par téléphone. Elle a précisé qu'aucune enquête judiciaire n'avait été ouverte et que le plus probable, selon elle, était que ces tirs étaient des écho de parties de chasse dans la vallée voisine. Mais plus tard, dans la matinée, TNTV apprenait qu'un tireur sportif, membre de la Fédération polynésienne de tir, a été entendu en audition libre et selon nos confrères, il a évoqué des tests de son arme dans son jardin.
Et ce matin, le directeur de la CPS a signé une convention avec les représentants de la police et de la gendarmerie.
Une convention qui rentre dans le cadre de la lutte contre la fraude. Un comité spécial avait été mis en place en fin d'année dernière sur le sujet. Cette convention vient renforcer la coopération entre le pays les forces de l'ordre en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en facilitant l'accès aux données personnelles des ressortissants de la CPS. Les enquêteurs pourront directement consulter les déclarations de revenus sans passer par la voie judiciaire, leur permettant ainsi de gagner du temps. Le directeur de la CPS, Pierre Frébeau, au micro de Lucie Secarelli.
Jusqu'à présent, le service de police, la justice, obtenait cette information dans le cadre de réquisitions. C'est vrai que les réquisitions sont lentes à mettre en œuvre. Avec cette convention, on leur donne directement accès au fichier RIMA, qui concentre les informations personnelles des individus déclarés à la CPS. Ce qui fait qu'ils sont plus réactifs et ils peuvent disposer de l'information. Je vous cite un exemple. Lorsqu'il y a une garde à vue en week-end, les services de la CPS ne travaillent pas. Ils peuvent avoir accès à l'information parce qu'ils ont des délais à respecter pour le maintien en garde à vue ou pas. Ça, c'est véritablement capital. Là-dessus, la précaution est quand même prise. Il faut respecter le cadre légal. Ce sera conformément à la loi sur la protection des données individuelles des personnes.
Et pour respecter cette loi sur la protection des données, seul un administrateur habilité pourra donc accéder à ces informations. Si le dispositif existe déjà dans l'Hexagone, c'est une première au Fénois.
Et cette nouveauté maintenant au RSMA.
Le régiment du service militaire adapté va augmenter ses capacités d'accueil des filières prévention et sécurité en vue de Tahiti 2027, réadapter la formation petite mécanique à Hivaoa et surtout ouvrir la formation super poids lourd, une nouveauté. En tout, ce sont une trentaine de formations qui sont proposées à Tahiti et dans les archipels à Tubuai, Hivaoa et Hau.
On continue avec cette nouvelle espèce de requin-marteau bien présente au Fénois.
Le projet Mao Cycling, actuellement en cours au large de Tahiti, a permis d'identifier et de confirmer scientifiquement la présence de requins-marteaux lisses. C'est grâce à une collecte de données morphologiques et génétiques que les équipes ont trouvé ce résultat. La chef du projet Mao Cycling, Clémentine Seguing, était au micro de Maya Gallo.
On a pu avoir l'opportunité de collecter un petit fragment de génétique sur l'animal qu'on a pu faire analyser. Et les analyses ont été formelles. En plus des observations morphologiques qu'on a pu faire sur le terrain, et bien finalement, il s'agissait d'une espèce de marteau qui n'était pas encore confirmée dans sa description en Polynésie, qu'il s'agit bien du requin-marteau-lis, qui est le Sphyrna zygaena. Et en termes de morphologie, eh bien, ce requin il se caractérise par un céphalofoil incurvé, mais au milieu du céphalofoil, il n'y a pas d'indentation médiane, qui porte à 35 aujourd'hui le nombre d'espèces de requins officiellement confirmées dans les eaux polynésiennes.
Et d'après la chercheuse, le requin-marteau-lis, c'est un requin qui se trouve plutôt dans les zones tempérées des hémisphères nord et sud. Jusqu'à présent, on ne savait pas qu'il était dans le Pacifique central. Une hypothèse a donc été mise sur la table. Est-ce que ce requin ferait le lien entre les populations de l'hémisphère nord et sud? Ça reste à prouver.
Je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des zones qui sont beaucoup moins échantillonnées que d'autres. C'est-à-dire qu'on étudie beaucoup les environnements qui sont les plus faciles d'accès, c'est-à-dire les environnements côtiers, les environnements peu profonds. Ça ouvre beaucoup de perspectives sur justement l'importance de s'intéresser à des milieux beaucoup plus difficiles d'accès, qui sont notamment les zones isolées, le large et aussi les milieux profonds. Il y a peut-être d'autres types de menaces et d'autres biodiversités qui ont besoin d'être protégées sur des écosystèmes davantage extrêmes. Il faut aujourd'hui mettre de l'effort sur l'étude de la biodiversité océanique et profonde. C'est quelque chose qui semble important.
Et on compte donc 35 espèces de requins en Polynésie, vous l'avez entendu, dont 3 pour les espèces de requins marteaux.
Et on continue à parler environnement avec ces projets associatifs choisis par la FAPE pour bénéficier du fonds Natura pour Inetia.
On trouve notamment la réinsertion des oiseaux toutouloulou sur un atoll au Gambier, la protection des récifs de Toubouaï contre les Talaméa, le ramassage et la valorisation de la Turbinaria ornata, 4 millions de francs qui vont être répartis entre les différents programmes de 10 associations. Plusieurs partenaires donateurs tels que Air Tahiti Nui, la Socredo ou encore Tahiti Tourisme contribuent à ces financements. Les explications du responsable du fonds Natura Polynetia, Jean-Claude Foglia.
Le fonds Natura Polynetia a été créé pour répondre à une demande des entreprises qui était d'avoir un lien plus sûr avec les associations qu'elles finançaient. Donc nous, on sert un peu d'interface entre les entreprises et les associations afin que les projets présentés puissent aller au bout et de manière correcte.
Jean-Claude Foglia, qui était au micro d'Alexandra Perini, dit aussi qu'il a été difficile de faire un choix entre toutes les candidatures de très beaux projets. Parmi les lauréats, on trouve notamment la création d'un jardin tout en récup à Faa. C'est l'association Hotuarea Nui qui le porte. Les explications de Hinavei.
Et aujourd'hui, je suis venue présenter notre projet de jardin pédagogique à destination de nos enfants du périscolaire. Et l'idée, c'est vraiment de développer l'éducation à l'environnement, de faire prendre conscience aux enfants qu'il y a des enjeux pour plus tard et qu'il est temps d'agir maintenant. Et donc de valoriser aussi la permaculture. Donc c'est une technique de plantation qui utilise les bienfaits des plantes pour pouvoir les faire grandir dans un environnement sain, sans pesticides, sans produits chimiques.
Et si vous voulez connaître les 10 programmes sélectionnés par la FAPE, toute la liste est sur notre site radio1.pf.
On continue avec du surf et la première Toa Pro Punaoya qui sera lancée lundi.
Oui, après Papara ou Rangiroa, c'est au tour de Punaoya d'accueillir pour la première fois une étape des Qualifying Series de la World Surf League. La Toa Pro Punaoya aura lieu sur le spot de Tahapuna la semaine prochaine. 3 journées complètes de surf, de compétition hommes et femmes. Et dans la foulée, le Beach Break de Papara accueillera la Toa Pro Papara du 25 au 30 mai. En accueillant les 2 premiers événements QS de la saison pour la région Hawaii-Tahiti, la Fédération Tahitienne de Surf espère que les talents locaux vont exceller sur des spots qu'ils connaissent bien et gagner des points au classement. Une stratégie déjà appliquée l'année dernière et qui s'est avérée payante, notamment pour Mihimana Braille. On l'écoute.
Ça m'a donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur une vague que je connais bien. Et du coup, j'ai réussi à faire un résultat. J'ai fini deuxième. Et en fait, le fait de commencer l'année comme ça, ça te donne un rythme et des points. Et du coup, tu arrives sur les autres compétitions pour le reste de l'année avec un peu moins de pression. Mais si tu es préparé, tu continues à performer et te qualifier, quoi. L'objectif, c'était de se qualifier dans les 5 premiers. On était plus de 100 Hawaïens, Tahitiens confondus. Et voilà, j'ai terminé 4e. Donc l'objectif a été rempli pour se qualifier dans les Challenger Series. Et voilà, cette année, ils refont la même chose, mais avec 2 compétitions. Donc ça multiplie encore plus nos chances.
Et puis Tereva David espère lui aussi se démarquer dès l'entrée de saison.
Il prévoit déjà du beau temps et des super conditions de vagues. Donc on pourrait avoir des super tubes avec des souffles et avec sûrement des manœuvres innovantes plutôt sur le dernier bol. Sûrement quelques gros airs sur le dernier bol. Donc ça va vraiment être excitant de regarder. C'est une bonne compète, il y aura du beau spectacle.
Voilà, une centaine de participants sont attendus sur la Toa Pro Punaoya dont la waiting période commence donc lundi. Et puis nos surfeurs sur l'OCT défendent actuellement les couleurs polynésiennes en Nouvelle-Zélande. C'est passé pour Vahine Fiero et Tia Zebrowski. Kaoli Vast doit lui affronter Jack Robinson.
Et on termine avec de l'agenda pour ce week-end.
Avec la nuit du musée qui sera organisée samedi prochain à Tahiti, mais déjà programmée pour demain à Moorea. L'écomusée Te Whare Natura organise la nuit du corail, une soirée immersive pour découvrir les récifs coralliens et leurs mystères, expériences sensorielles, ateliers éducatifs et animations interactives sont au programme. C'est organisé en partenariat avec la fondation Science for Reef. Ce sera donc demain soir de 18h à 21h à l'écomusée de Moorea.
Et ce sera aussi le dernier concert de Frédéric Rossoni avec le conservatoire.
Le maestro s'arrête et il va fêter ça au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Le Grand Orchestre Symphonique et le Big Band de Jazz du conservatoire vont être réunis une dernière fois sous sa baguette pour une soirée swing and soul. Son frère Stéphane vivra également son dernier grand concert au sein du Grand Orchestre du côté des percussions. Bref, ce devrait être une soirée musicale remplie d'émotions. Ce sera donc samedi à partir de 19h.
Et puis dimanche, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.
Et plusieurs événements sont organisés ce week-end à Tahiti, un village de la prévention dans la rue de l'école des frères de Ploermel autour du Farete Aroha de cousins-cousines. Ce sera samedi à partir de 8h. Un concert est organisé le soir, place Vaïté, avec Belcanto, All in One, Tensia et bien d'autres. Et puis dimanche, place aux rencontres institutionnelles et religieuses. Objectif de l'événement, sensibiliser la population mais surtout les pouvoirs publics aux problématiques rencontrées localement par la communauté LGBT+. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, c'est la météo sur Radio.